BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et bienvenue à tous, on vous accompagne en direct jusqu'à 18h tout au long de l'après-midi au rythme des marchés. Elle est un peu compliquée à nouveau cette séance ici en Europe. Le CAC 40 est en repli sous les 7770. On va en parler, hein, le potentiel des sections et surtout ces seuils techniques qu'il va falloir regarder très très près parce que mine de rien, on est peut-être en train d'enfoncer des paliers qui comptent. Nos experts seront là avec nous tout au long de l'après-midi. Romain Daubry notamment nous accompagnera depuis Bourse Direct. Et puis dans quelques minutes, la Bourse Cash, Alexandre Aizé nous accompagnera et nous dira ce qu'il pense concrètement. Honnêtement, en toute franchise. Après la réunion hier soir de la Réserve fédérale américaine qui change un peu le climat d'ailleurs sur les marchés, c'est ce qu'on observe à Paris comme aux États-Unis. L'ouverture à Wall Street en direct, c'est tout de suite, 9h30 à New York, 15h30 ici à Paris. Et la cloche qui retentit, nos experts de USA Today sont en place. L'ouverture US dans les yeux, grâce à vous, John Plassard depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour John, ravi de vous retrouver. Et grâce à Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne, content aussi de vous retrouver. Comment Wall Street se réveille-t-il?
Bonjour à tous. En ordre dispersé, comme la clôture d'hier soir, avec un indice Nasdaq qui est toujours sur des plus hauts historiques, une hausse de 0,6% dans les premières secondes de cotation, au-delà des 17 700 points, grâce notamment à Apple, qui, figurez-vous, vient de retrouver à l'instant sa place de première capitalisation mondiale. La valeur qui a pris 10% en l'espace de deux séances reprend plus d'1% aujourd'hui sur un record historique à 215$. Vous avez l'indice Dow Jones de son côté, lui, qui recule de 0,3%, 38 583 points. Le Dow Jones qui n'est pas sur un record historique, contrairement au S&P 500 et à l'indice Nasdaq, le S&P, lui, qui de son côté prend 0,25%, 5 435 points. L'obligataire qui continue de se détendre après des prix à la production, on en parlera dans un instant, qui rassure. Un 10 ans américain qui s'échange à 87. Le 2 ans de son côté perd 7 points de base à 4,70. Et puis le dollar qui continue également de se renforcer avec un euro dollar qui se retrouve très légèrement sous la barre des 1,08. Et donc Wall Street qui ouvre en ordre dispersé, mais un S&P 500 et un Nasdaq qui sont à nouveau sur des plus hauts historiques aujourd'hui.
Effectivement. On reparlera de la Fed dans un instant, mais d'abord peut-être John, ce nouveau chiffre d'inflation après hier les prix à la consommation qui confirmait un net ralentissement désormais de l'inflation. Est-ce que ce chiffre des prix à la production va dans le même sens aujourd'hui? On va allumer votre micro, John, promis. Ah ben voilà, on va pas réussir à allumer votre micro. Alors oui, la réponse à la question, est-ce que effectivement on a une confirmation du ralentissement de l'inflation? La réponse à cette question, ben c'est oui, puisque le chiffre du jour ressort inférieur aux attentes. On a des prix à la production en hausse de 2,2% sur un an, alors que le consensus les attendait quand même en hausse de 2,5%. Bon, la réaction, alors c'est vrai, elle est pas complètement impressionnante hein, sur le Nasdaq, même si sur le front obligataire on a une très légère réaction. Mais c'est vrai qu'hier aussi, on a vu ces prix à la consommation qui marquait déjà une nette accélération de la désinflation américaine. Alors, est-ce qu'on va vers une possible déflation même? Cette question, on la posera bien sûr à nos experts et notamment Alexandre Aizé qui sera avec nous dans quelques minutes. Alexandre Aizé qui parlera cash justement de ses perspectives d'inflation ou peut-être même au-delà de la désinflation, de possible déflation. Plutôt ici en Europe qu'aux États-Unis, plutôt aux États-Unis qu'en Europe, on lui posera cette question dans les yeux. En tout cas, en attendant, hier, la Fed a émis un message clair. On ne mise plus du côté de la Fed que sur une seule baisse de taux cette année. Au lieu de trois baisses encore anticipées dans les dot plots au mois de mars, on a une nette révision là sur ce front, effectivement, qui explique en partie d'ailleurs la correction aujourd'hui du marché. Ceci dit, les dot plots sont rarement complètement prédictifs. On a des dot plots qui donnent des images, scénarios, perspectives indicatives pour la suite, mais rarement les dot plots se confirment à 100%. Une fois l'échéance des dot plots atteinte sur le marché, rarement ce que les dot plots avaient permis d'anticiper se confirme à 100%. John Plassard est avec nous, donc à nouveau John. Oui, l'inflation américaine donc est en train de ralentir, et même si donc hier la Fed à travers ses dot plots limité encore les perspectives de baisse de taux à venir, on voit du côté des indicateurs en revanche que la désinflation est désormais bien amorcée.
Oui, tout à fait. Les prix à la production qui sont très importants. Il faut rappeler ici que certains économistes regardent plus les prix à la production que le chiffre de l'inflation qu'on a eu hier, qui était en baisse aux États-Unis. Bien, les prix à la production ont baissé de moins 0,2% en mai contre plus 0,5% en avril. Donc on voit qu'il y a une nette décélération de ce côté-là. Et en plus, on a vu qu'en termes d'emploi, on a eu le nombre de personnes demandant des allocations chômage qui a augmenté de 13 000 pour atteindre 242 000 au cours de la semaine qui se termine le 8 janvier. C'est le chiffre le plus élevé depuis août 2023. Donc d'un côté, une inflation qui baisse et de l'autre côté, plus de demandeurs d'emploi. Donc ça va dans le sens de la Fed et ça va dans le sens de dire le higher for longer. Il faut que les taux restent assez élevés. C'était le message, entre autres, hier de la Fed.
Effectivement. Donc la Fed, on y reviendra avec nos experts tout au long de l'après-midi. Il faut qu'on parle aussi un peu de politique américaine. On est à 145 jours du scrutin, John. Eh oui, déjà 145 jours. Et Kamala Harris, dans les sondages, la vice-présidente américaine, la colistière peut-être de Joe Biden. En tout cas, Kamala Harris est en train, dans les sondages, de perdre encore du terrain. Bon, on a un problème de
micro. Mal-aimée.
Ah non, ça marche. Allez-y, John.
Kamala Harris est la mal-aimée du gouvernement américain. Et je vous rappelle, et vous l'avez susurré, Guillaume, eh bien, ça pourrait être la prochaine vice-présidente américaine, c'est-à-dire renouveler son poste si Joe Biden devait être élu en novembre. Mais sa cote de popularité est de désapprobation nette est de 52%. Les Américains ne pensent pas qu'elle pourrait gagner la présidence si elle était candidate. En plus, ils ne pensent pas qu'elle ferait une bonne présidente. Et tenez-vous bien, parmi les démocrates, donc si on interroge les démocrates, vous avez 59% des démocrates qui estiment que Kamala Harris aurait des chances de remporter la présidente si elle était la candidate démocrate. Seulement chez les démocrates. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça voudrait dire, et on n'espère pas, bien évidemment, mais s'il devait arriver un problème de santé à Joe Biden, s'il devait être réélu, eh bien, Kamala Harris directement deviendrait la présidente et elle serait la mal-aimée dans le camp républicain, bien sûr, qu'il la déteste aux États-Unis, mais aussi dans le camp démocrate. Donc, on pourrait voir ici beaucoup, beaucoup de volatilité et des nouvelles stories l'année prochaine. Si elle devait être élue à la poste de la vice-présidence des États-Unis.
Wall Street, on rappelle, a ouvert en légère hausse, plus 0,1 sur le S&P, plus 0,5 sur le Nasdaq. Et l'une des valeurs à ne pas rater, Étienne nous accompagne toujours depuis la Tour Euronext, une des valeurs stars du jour, même Étienne, le titre Broadcom.
Broadcom qui prend un peu plus de 10% et qui permet d'ailleurs à Nvidia d'être sur des plus hauts historiques, plus 2,6% pour Nvidia au-delà des $128, avec une fois de plus, John Plassard, l'intelligence artificielle qui porte l'ensemble du secteur technologique.
Oui, c'est absolument fou. Broadcom, il faut rappeler quand même, c'est un fabricant de puces de réseau avancé qui aide à faire circuler de grandes quantités de données utilisées par des applications d'intelligence artificielle telles que ChatGPT, par exemple. Eh bien, Broadcom a relevé de 10% ses prévisions de revenus annuels provenant des puces qui contribue à l'intelligence artificielle. Donc on voit que c'est quelque chose qui est absolument incroyable. La société prévoit un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars pour les puces liées à l'intelligence artificielle en 2024. Et Broadcom, puisque c'était ses résultats hier, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 milliards. Tout se passe bien dès qu'on parle d'intelligence artificielle. On l'a vu ces derniers jours avec la publication de plusieurs entreprises. Et évidemment, ça tire Nvidia vers le haut.
Effectivement. Et donc Apple aussi, avec ses annonces sur l'IA en début de semaine, qui aujourd'hui touche un nouveau plus historique et devant Microsoft. Apple est devant Microsoft. On en reparlera. Voilà, le retour d'Apple. Est-ce que pour autant, et dans la mesure où Apple va quand même beaucoup dépendre d'OpenAI, est-ce que pour autant on peut considérer que Apple retrouve pleinement son statut de valeur de croissance? On posera cette question à nos experts, notamment dans quelques minutes. Alexandre Rézé, donc, qui sera avec nous. Un petit mot aussi de JP Morgan, quand même, qui relève aujourd'hui ses prévisions, John.
Oui, tout à fait. L'équipe de JP Morgan, c'est très intéressant et important de le noter parce qu'on ne parle pas tellement du secteur bancaire qui a baissé ces derniers jours. Eh bien, JP Morgan a revu à la hausse ses perspectives de revenus pour la banque d'investissement, prévoyant un bond de 25 à 30% au cours du deuxième trimestre, alors qu'en mai dernier, elle prévoyait un bond de 10%. Donc on voit qu'on passe de 10 à 25, voire 30%, et les revenus de trading devraient s'améliorer légèrement, mais dépassant l'estimation précédente de la banque. Donc tout va bien pour JP Morgan.
Effectivement. Puis Étienne a repéré une autre valeur qu'il ne faut pas rater aujourd'hui. Étienne, une valeur en hausse de, on est combien, 5,5% en ce moment.
En effet, une valeur très volatile, Tesla. $189 à l'instant, plus 6,7% pour Tesla, avec, ça y est, John Plassard, le package de rémunération d'Elon Musk qui a été validé, 56 milliards, pas 56 millions, c'est juste dingo cette histoire.
Oui, c'est fou. Et puis surtout la réaction du titre, parce que on s'était dit que, évidemment, si on posait la même question sur un chef d'entreprise en Europe, voire en France, pour sa rémunération de 56 milliards de dollars, eh bien, la réponse serait non. Eh bien, tenez-vous bien, la réponse des actionnaires est oui. Alors, l'histoire n'est pas terminée parce que c'est un vote de confiance et on sait que le Delaware, l'État du Delaware, peut toujours faire opposition à ce package, mais pour une fois, ça va dans le sens d'Elon Musk et donc c'est salué en bourse ici.
Merci beaucoup. John Plassard avec nous, c'est USA Today chaque après-midi depuis les bureaux de Mirabeau pour l'ouverture en direct et dans les yeux des marchés américains. Demain, John, pour de nouvelles aventures. Étienne aussi, bien sûr, nous accompagne depuis la tour Euronext tout au long de l'après-midi. À tout à l'heure, Étienne. L'Europe qui encaisse aujourd'hui la Fed, puisque la Fed ne voit plus devant elle qu'une baisse de taux finalement cette année. Et donc, on a ce CAC 40 qui recule aujourd'hui, c'est vrai, d'un peu plus d'1,4%. On enfonce des seuils techniques, d'ailleurs, peut-être importants. On appellera Romain Daubry tout à l'heure, puis Bourse Direct. On est actuellement sur le CAC à 7754 points. Et justement, on en parlera aussi des seuils techniques du jour à ne pas rater avec Alexandre Tixier. Alors là, il faudra même pas être très patient, ce sera dans moins de 10 minutes. Il sera avec nous, l'analyste du portefeuille trading BFM Bourse, pour voir si le fait de passer sous les 7770 pour le CAC est un problème. Là, on est en dessous, effectivement, à 7753. Voilà, est-ce qu'on vient d'enfoncer des seuils majeurs importants aux yeux d'Alexandre ? Il nous dira ce qu'il en pense précisément. Auparavant, 15h41, c'est la Bourse Cash. Alexandre Rézé nous rejoint, stratégiste du groupe Richelieu. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, vous venez aujourd'hui rendre justice. Votre verdict est-il clair ?
Il est clair.
Pour vous, et là je découvre votre verdict en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs, pour vous, la déflation pourrait finir par revenir. Ce verdict, vous l'assumez ?
Je l'assume.
La déflation. Alors, on a un nouveau chiffre aujourd'hui, des prix à la production qui confirme le ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Hier, les prix à la consommation aussi l'avaient confirmé. Les chiffres d'inflation désormais largement inférieurs aux attentes. Mais vous vous dites, ce qui nous guette peut-être désormais, c'est un retour de la déflation.
Oui, à l'horizon 2025-2026, pour une raison essentielle, c'est que les banques centrales, de toute manière, ont très peur de l'inflation. Et on a vu hier dans le discours de Jérôme Powell, je crois que 20 ou 25 fois, il a utilisé le mot confiance. Il n'a pas encore totalement confiance dans la dynamique des prix à la baisse. Mais en fait, lutter contre l'inflation, c'est amener des prix à une stabilité autour de 2%. Or, ce que l'on voit, c'est que l'inflation pourrait baisser de manière beaucoup plus rapide que prévu. On voit le taux de chômage aux États-Unis qui commence à remonter. Et finalement, on voit le modèle chinois qui, finalement, le modèle chinois est un échec tourné vers sa consommation. Donc, il recommence à se tourner vers les exportations et l'investissement industriel. Donc, il exporte maintenant une déflation comme nous avions connu il y a une dizaine d'années. Et en plus, ce que l'on voit, c'est que les États-Unis sont en train de ralentir. Alors, les banques centrales disent, finalement, on ne veut pas être dans le même environnement dans les années 70 ou une inflation qui repart. Évidemment, c'est un risque, ces vagues d'inflation, mais d'une certaine manière, on sait qu'une baisse de taux d'intérêt, c'est 12-18 mois. Et on voit quand même sous la vague d'un environnement macroéconomique qui est plutôt serein, on commence à voir certains effritements. La Banque de New York commence à s'interroger sur les faillites, sur les cartes de crédit notamment. On voit l'immobilier commercial qui est encore en dégradation. Et il se peut que les banques centrales réagissent trop tard en baissant leurs taux et que finalement, on voit, avec des niveaux de dette qui sont énormes actuellement, eh bien, un retour à ce que l'on avait dans les années 2008-2010.
Et vous craignez une déconnexion, en quelque sorte, des banques centrales. Hier soir, la Réserve fédérale américaine, donc avec ses dot plots, nous emmène vers un scénario, finalement, d'une seule baisse de taux cette année, alors qu'effectivement, l'inflation, l'un des tout derniers indicateurs, ralentit de plus en plus. Vous sentez qu'effectivement, là, la Fed risque... Alors, elle a toujours dit, il vaut mieux baisser les taux trop tard que trop tôt. Mais elle risque effectivement de commencer à baisser ses taux trop tard, à vos yeux, la Fed ?
Elle peut baisser ses taux trop tard. En tout cas, elle peut encore hésiter et essayer... L'enjeu, et Jérôme Powell l'a rappelé, c'est d'éviter que les marchés anticipent encore plus que ce que ne pourrait faire la BCE, donc finalement fassent baisser les taux trop rapidement et remettent en place une vague d'inflation. Donc la Fed a très peur de ce manque de crédibilité. C'est vrai qu'elle a failli perdre sa crédibilité en 2022 en disant que finalement il n'y avait pas d'inflation qui était temporaire. Et là, là, effectivement, à force de vouloir être certain qu'il n'y ait plus d'inflation, j'en parlais tout à l'heure, elle pourrait amener finalement vers une dynamique de prix positive, négative en 2025. Et c'est important hein, parce que finalement...
Mais quoi, juste un mois ou deux négatifs comme ça, parce qu'on serait dans les, comme vous dites, dans on va dire, les irrégularités de l'inflation avec des hauts et bas, des va-et-vient, voilà, et où vous voyez une structure peut-être plus durable s'installer vers une déflation. C'est ça que vous êtes en train de mettre en avant aujourd'hui ou juste un mois ou deux comme ça, l'accidentelle ?
Non, ça peut être un peu plus délicat. Pourquoi ? Parce qu'on a encore une situation encore différente de ce que l'on était dans les années 2000-2010, c'est les montants de dette, notamment des États, et qui sont quand même d'une certaine manière déflationnistes. L'État américain, l'État français, l'Europe en général, effectivement, les dettes sont largement en dessous de 100% du PIB, et donc ça amène finalement un phénomène déflationniste parce qu'on pourrait avoir en plus effectivement potentiellement une crise sur la dette. Et dans ces cas-là, les banques centrales devraient réagir, mais si on le voit actuellement, l'inflation est encore importante, elles ont les pieds et mains liés pour l'instant, et pourraient voir le train passer sans pouvoir agir.
Mais si déflation liée à, ce serait forcément lié à une récession ou on pourrait avoir la croissance et la déflation ?
Ah bah, ça serait forcément lié à une récession, surtout aux États-Unis.
Vous êtes très très noir, Alexandre.
Alors non,
vous allez contre l'économie, c'est tout.
Alors très très noir. Je rappelle que l'année dernière, à peu près 80% du marché pensait qu'il allait avoir une récession importante aux États-Unis. Finalement, on a eu une croissance extrêmement vive. Finalement, il y a un consensus très fort pour dire que la croissance économique américaine est bonne, que l'année prochaine elle va être encore bonne. Finalement, ça n'a jamais été prédictif. C'est un risque qu'il faut prendre en compte, et surtout par rapport à ce scénario-là, c'est vraiment l'attitude de la Fed qui va déterminer si elle doit amener l'Amérique en récession pour faire baisser l'inflation.
Comment et donc, mais donc déflation possible, c'est un scénario majoritaire à vos yeux ou juste une petite mise en garde au cas où?
Non, c'est évidemment une mise en garde. D'accord. Et c'est complètement en dehors. Alors on commence à avoir quelques analystes de grandes banques qui en parlent, mais c'est encore sous le son est encore assez faible. Hein. Mais c'est un risque qui pourrait revenir, pas cette année, mais à partir de 2025, vous allez voir, on en parlera.
Le son de la tour Euronext, vous le connaissez? Le voici. Étienne Brack nous appelle depuis la tour Euronext, 15h47. Étienne, effectivement, pour le suivi de cette séance, les indices américains, on le disait, sont mitigés. En revanche, en Europe et à Paris, la tendance est très très claire. On est dans le rouge et à nouveau un rouge très vif cet après-midi.
Oui, très clairement. Si Wall Street limite la casse grâce notamment à Apple et Nvidia qui sont sur des plus hauts historiques, la bourse de Paris, elle continue de s'enfoncer. Elle est même sur les plus bas niveaux de la séance. 7743 points, c'est une baisse de 1,5%. Alors hier, le CAC 40 a rebondi d'1%, mais ce rebond aujourd'hui, il ne tient pas. Surtout que vous avez des niveaux techniques qui ont été franchis à la baisse depuis plusieurs jours. Vos intervenants disent attention, il ne faut pas baisser sous les 7770 points sur le futur. Bon, là, le futur, il est à 7734, donc forcément, eh bien, il y a des portes ouvertes qui s'ouvrent. Pour l'anecdote, c'est très amusant de voir qu'il n'y a qu'une seule valeur dans le vert aujourd'hui dans le CAC 40, c'est Hermès. Comme quoi, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu la valeur défensive par excellence depuis le début de l'année, puisque contrairement au secteur du luxe, eh bien, elle tient très bien au-delà des 2170 dollars à l'instant.
Oui, effectivement. Et, peut-être un jour Hermès à Wall Street, après tout, Alexandre. Mais ils n'ont pas besoin d'aller à Wall Street pour briller. Cette question aussi sur l'automobile, parce qu'il y a un autre secteur, effectivement, qui aujourd'hui, lui, se distingue à la baisse, c'est le secteur automobile. On a eu hier cette annonce d'une hausse des taxes douanières en Europe sur les véhicules fabriqués en Chine. Et c'est aussi l'objet, Alexandre, de notre question aux auditeurs et téléspectateurs sur notre fil XBFM Bourse. Avec ces surtaxes douanières européennes sur les véhicules chinois, pour vous, qui sera la principale victime à la fin? Est-ce que ce seront les constructeurs français, les constructeurs allemands qui produisent beaucoup en Chine? Est-ce que ce sera Tesla qui est aussi produit en Chine? Voilà, victime peut-être Tesla effectivement de ces surtaxes douanières européennes vis-à-vis des constructeurs produits là-bas en Chine. Ou est-ce que, à la fin des fins, la victime de tout cela, ce sera le secteur des spiritueux, voire du luxe, avec de possibles représailles chinoises effectivement. Pendant que les Européens augmentent leurs taxes sur les véhicules chinois, eh bien les Chinois, eux, pourraient sanctionner, punir le segment des spiritueux, notamment des spiritueux français. C'est dans l'air depuis déjà plusieurs mois. Alexandre.
Alors, c'est dans l'air depuis plusieurs mois. C'est vrai que la guerre commerciale, on voit bien qu'elle vient, elle vient poindre le bout de son nez. Elle est venue des États-Unis très forte et de la campagne présidentielle américaine. On sait, on connaît les velléités de Donald Trump au niveau des tarifs douaniers. Ça ne fait que commencer. C'est vrai que, d'une certaine manière, Xi Jinping a a essayé de rassurer lors de sa venue en France en disant que, en tout cas, la guerre commerciale ne concernera pas les spiritueux. À mon avis, effectivement, ça va être une victime collatérale assez importante et il faut s'attendre encore à des mesures assez répressives. Sur la question de savoir si...
Rémi Cointreau perd 5,5% par exemple aujourd'hui.
Tout voilà. à fait, bah. Vous avez Campari aussi, enfin vous avez tout ce secteur qui souffre de manière très significative. En ce qui concerne l'automobile, bah, on est à peu près dans la même expectative, c'est-à-dire que, évidemment, sur le papier, ce sont les véhicules allemands qui exportent beaucoup en Chine qui vont souffrir le plus. Mais en fait, tout le secteur sera victime, en tout cas le secteur européen, beaucoup plus que le secteur américain. Je voudrais juste aussi corriger, enfin en tout cas, modifier quelque chose sur ce risque sur les taxes douanières. On voit que la Chine a quand même pris beaucoup d'avance pour lutter contre ces hausses de taxes, puisqu'elle commence à exporter dans d'autres pays qui réexportent, on le voit aux États-Unis avec le Mexique, notamment sur l'automobile. Donc, paradoxalement, la Chine est déjà prête. Est-ce que la question, c'est de savoir si l'Europe est prête à cette guerre commerciale? Ça, c'est encore une autre histoire.
Bon, ça c'est évidemment l'une des grandes thématiques, notamment depuis hier, donc cette annonce de surtaxe douanière européenne vis-à-vis des véhicules fabriqués en Chine. Autre immense thématique de marché, la France, décidément scrutée par les investisseurs internationaux. On a un écart de taux aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands qui reste supérieur à 60 points. On est à 64 points à l'instant d'écart de taux, toujours entre la France et l'Allemagne. Le fait que ça ne se soit pas vraiment détendu depuis le début de la semaine, pas encore, 4 jours après l'annonce de la dissolution, c'est le signe qu'effectivement, on est sur une tension amenée à durer jusqu'au scrutin, qu'on est au-delà, effectivement, de l'abcès de fièvre qu'on aurait pu connaître juste pendant quelques heures après l'annonce de la dissolution. Ça risque de durer, Alexandre ?
Ça risque de durer. On a eu un accès de fièvre, mais assez, finalement, faible lundi. Hein, 10 BP sur la dette française, c'est pas si important que ça. Il y a vraiment une défiance qui va se passer. On a quand même dans l'histoire, et il faut bien comprendre qu'en France, ça serait la première fois où la France peut être attaquée par les marchés sur un sujet politique. La France a plutôt été une stabilité assez forte. On a eu à un moment l'Espagne, on a eu l'Italie, on a eu évidemment Liz Truss en 2022 en Grande-Bretagne. À chaque fois, effectivement, les marchés testent. Et j'en parlais au début de mon intervention, mais quand vous avez une dette de 110% de son PIB, en fait, vous êtes complètement dépendant du marché dans votre politique notamment budgétaire.
Oui. Donc on voit que d'autant que les créanciers sont très internationaux, les créanciers de la France.
Les créanciers sont très internationaux et quand vous avez 2,6% de votre charge d'intérêt par rapport au PIB c'est très important et que vous voulez ramener votre du déficit budgétaire à 3% et que vous avez déjà 2,6% à payer en charge d'intérêt, ben on voit la fragilité des pays. Si les taux montent, vous avez un effet auto-réalisateur. Et ça, on l'a bien connu dans les années 2011 avec la crise souveraine européenne. Il y a ce spectre, notamment des investisseurs internationaux, mais aussi des locaux, qui repointent en tout cas de manière assez forte.
Et alors, justement, certains secteurs sont particulièrement touchés. Le secteur bancaire, Vinci, les concessionnaires auto, les médias aussi, avec une possible, on verra si le RN obtient la majorité absolue, et c'est absolument pas fait. Mais on voit ces secteurs qui en bourse sont attaqués depuis le début de la semaine et le reste encore aujourd'hui, ils sont encore en baisse aujourd'hui, ces différents secteurs. Est-ce qu'il y en a un dont vous dites celui-là, tiens, c'est peut-être un point d'entrée, une occasion d'achat ou on laisse passer le train là ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en France effectivement l'ensemble des valeurs baissent, mais on peut réinvestir sur des secteurs où au niveau européen, c'est-à-dire qui baisse aussi, la bourse dans son ensemble sur la zone euro baisse, et là vous pouvez avoir quelques valeurs qui peuvent en tirer parti. C'est vrai que les valeurs qui sont vraiment sur lesquelles il faut éviter actuellement, à mon avis, sont les acteurs qui ont des chiffres d'affaires qui sont quand même très concentrés sur la France. Puisque là, au moins pour un mois, on est dans une complète incertitude.
Les small caps, par exemple, qui avaient brillé pendant un ou deux mois face aux grandes valeurs, là, je regardais, les small caps, elles ont effacé une partie de leur avance. Là, en quelques
alors,
jours.
Le CAC small qui avait largement surperformé les marchés, le CAC, effectivement, baisse très, de manière très significative, ce qui n'est pas le cas pour les small caps européennes, en tout cas, qui sont un peu plus immunisés et qui font plus ou moins le marché. Donc c'est vraiment concentré sur la France et c'est vrai, on comprend, je veux dire, le système politique français est quand même compliqué pour des investisseurs internationaux, c'est encore pire, donc il y a ce doute encore présent.
Bon, et au-delà des small caps qui depuis quelques jours trinquent, les small caps françaises, alors c'est dommage, c'était le grand réveil, bon là on a un petit coup d'arrêt quand même. Au-delà de ces small caps, il y a les blue chips comme on les appelle, les grandes valeurs aussi impactées par la situation politique et qui le restent aujourd'hui. Les banques sont encore en repli, Crédit Agricole -3%, Société Générale toujours sous pression, on a toujours TF1 et M6 en repli plus de 3,5% chacune. Et on a à nouveau Vinci aussi aujourd'hui, avec une possible, on verra, il faut une majorité absolue a priori, mais enfin on verra à quoi ressemblera l'Assemblée, il nous reste quelques semaines. Un monde entier va passer d'ici à cette législative, mais aujourd'hui Vinci perd à nouveau 2,4%. Et 4 jours après l'annonce de la dissolution, un autre regard distancié sur les réactions de marché avec Gilles Mouet, qui sera avec nous dans quelques minutes à partir de 16h10, le chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir accompagné.
Merci.
Alexandre Aizé pour Richelieu. Le CAC 40 est toujours en repli, moins 1,6%, mais l'info du jour, Étienne nous le disait, c'est qu'Apple effectivement confirme son retour au rang des premières capitalisations mondiales, la première même devant Microsoft aujourd'hui.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce que oui, investir en bourse, ça se cultive. Culture Bourse, chaque jour, Julie Connerton et ses experts vous répondent. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Une seule direction, celle de BFM Bourse. Et vous connaissez l'adresse, eh bien c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code, il est très beau, qui s'affiche sur notre écran.
Toujours aussi beau, effectivement. On évoquait Rémi Cointreau, tiens, à l'instant, qui recule de 5%. Mais la question de notre auditeur, de nos auditeurs aujourd'hui, elle porte pas sur Rémi Cointreau, mais sur son grand rival, le titre Pernod Ricard, Julie.
Absolument, et c'est Gilles qui s'interroge sur ce titre. Il se demande tout simplement ce qu'il faut en penser. Est-ce qu'on peut encore espérer un rebond ou est-ce que la descente aux enfers va se poursuivre? Il faut dire que depuis le début d'année, et puis même avant en fait, le titre, il n'a cessé de décevoir. Il oscille aujourd'hui autour de 131 euros contre 155 en début d'année. Donc à quoi on peut s'attendre? Eh bien on voit cela tout de suite avec Gwenaëlle Lessard pour Swiss Life Banque Privée. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Julie.
Alors Gwenaëlle, déjà peut-être pour commencer, pourquoi il y a un tel repli sur ce titre?
Bon, il y a plusieurs choses. Ça a commencé déjà depuis un petit moment en fait. Il y a des chiffres de vente qui sont quand même assez, pas très bons depuis plusieurs trimestres, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Avec, il y a encore eu un chiffre au premier, deuxième trimestre que c'est à cheval, Pernod Ricard, où lors du nouvel an chinois, ça s'est moyennement passé. Il y a toujours une réduction aussi des volumes aux États-Unis. Et ça devrait continuer quand même encore un ou deux trimestres. Donc c'est pour ça que le rebond, ça prendra sans doute un peu de temps. Il y a aussi, surtout aussi, il y a un peu de pression parce que la société avait annoncé qu'elle aurait une stabilité à peu près sa croissance en 2023-2024 sur l'exercice achat. Ça met quand même beaucoup de pression sur le quatrième trimestre où il faudrait quand même faire une croissance entre plus 4 et plus 8. Donc là, le marché a déjà anticipé un peu, c'est pour ça que la valeur a baissé, mais ça met encore un peu de pression.
Alors du coup,
il y a aussi encore un autre élément, c'est que vous avez une dette assez élevée chez Pernod Ricard, à 3 fois une nette dette sur EBITDA, et donc depuis un petit moment, ils font du rachat d'actions, mais ils vont sans doute arrêter parce que pour ne pas détériorer ce ratio, donc on n'aura plus ce soutien pour les 2 ou 3 prochains trimestres.
Alors, Gwenaëlle, vous ne nous incitez pas du tout à acheter le titre, on a l'impression là.
Non, après, alors bien sûr, il y a des choses. On arrive sur des niveaux de valorisation très faibles pour Pernod Ricard. On est autour de 7 fois 2024. Il faut se souvenir qu'entre 2019 et 2022-2023, on était plutôt sur des PE entre 22 à 24 fois. Donc on est déjà, ça a déjà beaucoup de choses intégrées dans ce cours. Il y a toujours la croissance en Inde quand même qui se comporte bien. Donc ça, c'est important. Nous, on estime que entre 120 et 130 euros, c'est sans doute le début de commencer à mettre un petit doigt de Ricard dans votre portefeuille et pour jouer une recovery sans doute sur à partir du premier ou deuxième trimestre 2025. Donc, ça peut être intéressant de regarder un petit peu à la fin du quatrième trimestre. Entre 120 et 130, il faut commencer à mettre un petit doigt.
Gwenaëlle, et donc voilà un niveau de cours autour duquel, pourquoi pas, ce titre Pernod Ricard pourrait devenir à vos yeux intéressant. Je vous propose, Gwenaëlle, de rester avec nous et de parcourir l'ensemble de la séance dans un instant, si vous le voulez bien, bien sûr, Gwenaëlle.
Bien sûr.
Ouais, plaisir partagé. On se retrouvera dans une poignée de secondes, donc pour que vous nous expliquiez effectivement quel potentiel sur d'autres titres. Mais d'abord, Julie, Culture Bourse, c'est de la pédagogie au sens large et aussi l'analyse technique. Il se trouve qu'aujourd'hui, le CAC 40, là, qui perd désormais quasiment 2%, est en train d'enfoncer des seuils techniques peut-être majeurs. L'occasion d'en parler à travers notre portefeuille, le portefeuille trading BFM Bourse.
Et grâce à notre expert. Notre expert, c'est Alexandre Tixier. C'est lui, l'analyste de ce portefeuille trading. Bonjour, Alexandre.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Hello.
Alors on le rappelle, si vous avez la chance de nous regarder, vous pouvez scanner ou flasher le beau QR code qui apparaît sur vos écrans. Donc le CAC 40, effectivement, semaine difficile avec la conjoncture politique. Il y a eu une petite reprise de souffle hier et puis finalement, patatras, aujourd'hui on est repassé sous les 7800 points. Est-ce qu'on est vraiment sur une mauvaise pente, Alexandre? Est-ce que ça ne peut pas finalement un petit peu s'arranger? Quelle lecture technique vous faites de tout cela?
Effectivement, Julie, la mauvaise pente, alors est-ce que c'est durable? Je ne sais pas, en tout cas, à très court terme, c'est pas bien joli. Vous disiez une petite reprise de souffle hier, on regarde les volumes étaient quand même un peu moins importants que la veille. Si on reprend les niveaux, voilà, on a vraiment un niveau à 7900 qui a été enfoncé. C'était une figure en épaule tête épaule. Là, ça a vraiment cédé. C'est durable et ce qui va vraiment être intéressant de voir, c'est si demain soir cette rupture est confirmée. Pourquoi demain soir? Parce que là, on aura vraiment l'allure, on va dire, définitive de la bougie hebdomadaire. Et si cette bougie hebdomadaire finit sur les plus bas de la semaine, là, effectivement, on peut aller voir assez rapidement, je pense, les 7400-7455 points.
Ah oui, effectivement. Attention, effectivement, possible accélération baissière. On va suivre ça très très près. Alors, oui. Grâce à vous, Alexandre, hein, chaque mardi, chaque jeudi, le portefeuille technique BFM Bourse, portefeuille trading, et puis des idées peut-être de valeur. Comment, dans cette situation de marché peut-être un peu plus complexe désormais, comment tirer les marrons du feu? Est-ce qu'il y a des titres, par exemple, qui depuis le début de la semaine s'ouvrent particulièrement, notamment depuis l'annonce de la dissolution, dont vous vous dites, tiens, ceux-là, pour mes abonnés, ils peuvent retrouver un point d'intérêt?
Alors c'est effectivement, contre-intuitivement, c'est ceux qu'on va regarder en priorité, c'est ceux qui souffrent le plus maintenant, puisque nous on s'adresse vraiment à des investisseurs actifs, mobiles, des investisseurs plutôt de court terme. Et effectivement, là-dessus, sur un certain nombre de secteurs, je parlais du secteur des équipements automobiles, donc c'était pas hier, c'était mardi, on a repéré un certain nombre d'acteurs, mais sur les bancaires aujourd'hui, alors effectivement on n'y touche pas tout de suite aux bancaires, mais un titre comme Société Générale, un petit peu au-dessus des 23 euros tout à l'heure, s'ils font sur les 20 euros, hein, seuil symbolique des 20 euros, avec pourquoi pas un moment, une ou deux séances de gros stress, ça c'est un titre qui peut être intéressant à jouer en court rebond technique. Même si en ce moment, hein, je dis bien, on se garde bien d'y toucher, tout simplement parce que le marché, bien évidemment, il supporte pas de ne pas connaître la couleur du prochain gouvernement.
Oui, il va falloir attendre encore quelques semaines. Alors, pas longtemps, à peine 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça va aller très très vite. Société Générale, donc pourquoi pas, à suivre selon les évolutions, bien sûr. Merci beaucoup. Alexandre Tixier, l'analyste technique de ce portefeuille trading. Merci Julie.
Merci Guillaume.
Julie Connerton et ses experts dans Culture Bourse chaque après-midi. Dans un instant, la séance en direct et cette baisse qui accélère encore à la Bourse de Paris. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.